Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Anne Frank pour notre journal pas très banal. Aujourd'hui, en exclusivité, vous allez écouter notre toute première émission intégrale. En fil rouge de cette émission, vous pouvez retrouver notre jeu concours. Quatre indices vont être dévoilés tout au long de notre émission pour retrouver une personnalité célèbre. Si vous pensez avoir trouvé la bonne réponse, envoyez-la par cybercollège à Madame Maserati. Vous aurez peut-être une chance de gagner un cadeau financé par le FSE. Commençons tout de suite par le premier indice dévoilé par Mathias.
La personnalité que vous recherchez est née à Kinshasa.
Très bien, parfait. Maintenant, nous allons enchaîner avec toi et Eloane pour parler d'un sujet d'actualité important d'un point de vue environnemental. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Valentin.
Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, la fast fashion. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
La fast fashion, c'est quand une marque fabrique des vêtements très vite, très souvent, pour pas cher. Une marque de fast fashion peut contenir plus de 36 collections par an, contre 4 une marque de mode classique.
Cela incite les consommateurs à acheter de nouveaux vêtements régulièrement et à jeter ceux qui ne sont plus à la mode.
Et quand on jette un vêtement, où croyez-vous qu'il finit ? Eh bien, très souvent, dans les pays en voie de développement comme en Amérique du Sud, et cela donne des montagnes de vêtements dont on ne sait pas quoi faire.
Cette fast fashion est très mauvaise pour l'environnement, d'abord parce qu'on ne sait pas quoi faire des habits dont on ne veut plus, et parce qu'il faut beaucoup d'eau pour fabriquer des vêtements.
En plus, les ouvriers qui fabriquent ces habits sont en général très mal payés et travaillent dans des très mauvaises conditions.
Alors, avant d'acheter ces habits, dont vous n'avez pas forcément besoin, réfléchissez. Il vaut mieux acheter un vêtement de bonne qualité que vous allez garder longtemps, même si elle est un peu chère.
Parfait, merci à tous les deux. Ensuite, dans la minute historique, Simon va vous faire remonter le temps au XVIIIe siècle, au cœur de la Révolution française. Bonjour Simon.
Bonjour Valentin. Aujourd'hui, dans la petite minute historique, je vais vous parler de la prise de la Bastille, événement très important pour l'histoire de notre pays. Comment s'est-elle déclenchée ? Nous sommes au XVIIIe siècle et Louis XVI est roi de France. Le peuple est divisé en trois parties. Le tiers-état qui représente ceux qui travaillent dur, le clergé qui regroupe ceux qui prient et la noblesse qui regroupe les personnes les plus riches. Le problème, c'est qu'il y a une grosse famine et que seuls les membres du tiers-état payent des impôts. Le peuple se plaint au roi, mais il n'a rien fait pour les aider. Louis XVI fait écrire des cahiers de doléances pour collecter les plaintes des Français. Trop de taxes, pas assez à manger, trop de privilèges pour la noblesse. Lors du vote dans une salle, les trois états se réunissent. Il y a une voix par état qui donne donc 2-1 pour la noblesse et le clergé. Le tiers état n'est pas content de cette annonce, ce qui entraîne donc le serment du jeu de paume, le 20 juin 1789, au cours duquel est décidée la rédaction d'une constitution. Un texte qui définit l'organisation et le fonctionnement de l'état et qui réduit le pouvoir du roi. Tout ceci est la première étape de la Révolution française. Mais le peuple a toujours faim et prend d'assaut la Bastille le 14 juillet 1789. Louis XVI prend peur et s'enfuit avec sa femme Marie-Antoinette, mais ils sont arrêtés à Varennes et guillotinés le 21 janvier 1793. C'est ainsi que la monarchie absolue prend fin en France avec l'instauration de la Première République.
Merci Simon. Restons dans le passé mais remontons un peu le temps jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avec Julien et Hugo qui vont vous présenter un de leurs coups de cœur. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Valentin. Aujourd'hui nous allons vous présenter un de nos coups de cœur littéraires, Les Enfants de la Résistance. Il s'agit d'une BD.
Pour l'instant il y a 9 tomes mais la série n'est pas encore terminée. En juin 1940, l'armée française subit l'une de ses plus cuisantes défaites de son histoire face aux forces allemandes.
Le maréchal Pétain, chef du gouvernement, demande l'armistice qui est paraphé le 17 juin avec l'Allemagne. Dès lors, il assume la direction de la zone libre, tandis que le reste du territoire demeure sous le joug de l'occupant.
Dans le modeste bourg de Pont-en-Écluse, sur le canal reliant la Marne à la Saône, François, Euseb et Lisa, tous trois âgés de 13 ans, refusent de se rendre.
Ils se lancent des défis, tels que soutenir le regard des soldats allemands sans ciller, manière de signifier aux personnes résignées que si la France a perdu une bataille, elle n'en a pas pour autant perdu la guerre.
Nous, nous l'avons adoré, car cette BD, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Parce que son histoire est captivante, il y a des rebondissements et on s'attache aux personnages. En plus, il y a des pages documentaires à la fin qui permettent d'en savoir plus sur la Seconde Guerre mondiale. Nous lui mettons 5 étoiles.
Merci à vous deux. Tout de suite, le deuxième indice dévoilé par Ruben.
La personnalité que vous cherchez porte des lunettes.
Merci Ruben. Maintenant, laissons la place à David et sa rubrique « Le ciné, c'est pour tous ».
Merci Valentin. Bonjour les auditeurs. Alors aujourd'hui, dans la rubrique « Le ciné, c'est pour tous », on va parler du film « The Young and Prodigious T.S. Spivet ». Ou alors en version française, cela va donner « L'extraordinaire voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet ». Alors pourquoi en parler aujourd'hui ? Tout simplement car, fin 2024, toutes les classes de 6e de notre collège sont allées le voir, ou du moins une rediffusion du film, car il date de 2013 au cinéma Family à Saint-Just. Dans ce film, on suit l'histoire de T.S., un enfant surdoué qui va faire une fugue pour aller chercher le prix de la meilleure invention à Washington, donc sans prévenir ses parents. C'est donc son incroyable épopée que l'on va suivre dans ce film. Moi, j'ai adoré le film car il était très beau, mais aussi très drôle, avec ce petit garçon qui va faire ce long voyage pour aller récupérer son prix. Petite anecdote, le cinéma de Saint-Just n'a pas retrouvé la version originale du film, donc on l'a vu en 3D et en anglais. Maintenant, je redonne le micro à Valentin.
Merci David. Parlons sport. Amaël va vous présenter une course mythique, le Paris-Roubaix. Bonjour Amaël.
Bonjour Valentin, le dimanche 13 avril 2025 s'est déroulée la 122e édition du Paris-Roubaix. Mais qu'est-ce que le Paris-Roubaix ? Le Paris-Roubaix est un classique du cyclisme qui fait environ 260 km et qui passe par 29 secteurs pavés dans le nord de la France. La course part de Compiègne et arrive au vélodrome de Roubaix. Les principaux favoris étaient Mathieu Van Der Poel, cycliste néerlandais qui est le double tenant du titre, et Wout Van Aert, cycliste belge, et Tadej Pogacar, cycliste slovène. Le Paris-Roubaix a été créé en 1896. C'est l'une des plus anciennes courses de cyclisme mondial. Interrompu durant le confinement à cause du Covid-19. Depuis 1966, le Paris-Roubaix ne part plus de la région parisienne mais de Picardie. Bon, assez patienté, annonçons les résultats de la course homme. Mathieu Van Der Poel est arrivé en tête, suivi par Tadej Pogacar et Jasper Philipsen. Pogacar et Van Der Poel étaient en tête, mais Pogacar a fait une erreur de pilotage au 38e kilomètre avant l'arrivée. Il est tombé mais il ne s'est pas fait mal, il a perdu du temps et n'est pas revenu sur le champion de Paris-Roubaix. Le samedi 12 avril a eu lieu l'édition femmes. Annonçons les vainqueurs. La Française Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique de VTT, a gagné Paris-Roubaix. En deuxième place, nous avons Laetitia Borghacci, suivie par Lorena Wiebes.
Merci Amaël. On retrouve tout de suite Louise et Julia qui vont vous parler théâtre et droits des femmes. Bonjour à vous deux.
Bonjour Valentin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la pièce de théâtre « Maman, c'est quoi une culottée ?» que toutes les classes de 5e ont vue au collège dans le cadre de la journée des droits des femmes du 8 mars.
La pièce de théâtre a été créée à partir de la deuxième BD des culottés, écrite par Pénélope Bagieux et interprétée par la compagnie Mange et tais-toi.
Maman, c'est quoi une culottée ? Raconte l'histoire d'une jeune fille qui se réfugie dans son grenier après une dure journée de cours. Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire plus tard et doit remplir sa fiche de vœux pour l'école. Sa mère tente de l'aider en lui parlant des histoires des femmes du passé pour qu'elle trouve sa voie. Elle lui raconte par exemple la vie de Nellie Bly, une des premières journalistes d'investigation. L'histoire de Nazik Abid, une militante syrienne qui s'est abattue pour les droits des femmes, ou encore l'histoire de Temple Grandin, qui a subi toute sa vie des moqueries à cause de son sexe et de son autisme, ce qui ne l'empêchera pas de s'imposer dans le milieu de la défense des animaux. Pourquoi avoir appelé la pièce comme cela ?
La mère de Lindsay, la metteuse en scène de la pièce, lui a offert le tome 2 de Culottée. Alors, quand elle a décidé de monter cette pièce, elle lui a donné pour titre la question qu'elle aurait pu poser à sa mère en recevant le livre. « Maman, c'est quoi une culottée ?»
Pourquoi avoir choisi ces femmes précises dans la représentation ?
L'INSEE a choisi ces femmes pour leurs différences afin de montrer que les femmes peuvent réussir dans tous les domaines. Nous avons trouvé cette pièce très intéressante. D'abord parce que nous avons découvert des femmes que nous ne connaissions pas et qui pourtant ont marqué l'histoire. Ensuite, parce que malgré les difficultés et les épreuves, elles n'ont jamais baissé les bras et sont allées jusqu'au bout de leurs rêves. C'est une belle leçon de vie.
Merci Julia et Louise. Écoutons maintenant Éloane pour le troisième indice.
La personnalité que vous recherchez est connue pour mélanger le rap et la pop.
Maintenant, Léonard va vous parler d'un projet qui se déroule au collège Anne Frank.
Tout à fait Valentin. Je vais vous parler du projet que nous menons avec la classe de 6F et avec Hakim, un des chanteurs du groupe Dubbing. La Dubbing est un groupe de reggae créé en 1997, composé de 8 membres originaires de Saint-Étienne. Donc au départ, un groupe local, mais qui a du succès au niveau national et international, puisqu'ils font des concerts dans toute la France et même en Europe. Je vous conseille particulièrement d'écouter « À tort ou à raison », une chanson qui rend hommage à ceux qui sont partis trop tôt. Avec la classe, le projet est de créer une chanson pour lutter contre le harcèlement, prévenir les dangers des réseaux sociaux. Hakim vient assez régulièrement et de manière bénévole pour nous faire répéter le chant qui servira pour la journée de lutte contre le harcèlement, pour faire chanter tout le collège lors de la journée nationale en novembre 2025.
Merci Léonard. Maintenant, nous retrouvons Alexane et Juliette pour la Minute Nature.
Bonjour Valentin. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un animal que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit de l'orignal. Cet animal, aussi connu sous le nom d'élan, vit dans les régions froides comme le Canada, l'Alaska et Terre-Neuve.
C'est un animal plutôt solitaire, de la taille d'un cheval, qui est particulièrement bien adapté aux hivers rigoureux. Sa forte masse et son pelage qui se dote d'un duvet dense en hiver l'aident à résister au froid rigoureux.
Sa taille est de 1,40 m jusqu'à 2,10 m selon l'âge et sa longueur est de 2,40 m jusqu'à 3,10 m aussi selon l'âge. Il pèse entre 380 kg et 700 kg pour les mâles et pour les femelles entre 200 et 490 kg.
La vitesse maximale d'un mâle orignal est de 56 km/h et son espérance de vie est entre 15 et 25 ans.
Son temps de gestation est de 243 jours.
L'orignal est herbivore et se nourrit principalement de feuilles et de brindilles.
Le cri de l'orignal s'appelle le renacle.
Il est bientôt temps de nous quitter, mais avant cela, écoutons le quatrième et dernier indice qui vous permettra peut-être de trouver le personnage mystère. Mathias, nous t'écoutons.
La personne que vous cherchez était dans le groupe Section d'Assaut.
Merci Mathias. Nous espérons que cette première émission intégrale vous aura plu. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Anne Frank.